C'est Radio France Internationale que vous écoutez, il est pile 20h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Et vous êtes au cœur de RFI Soir, tout de suite, c'est le grand journal. Et c'est avec vous Christophe Paget.
Bonsoir.
À la une, le défilé militaire à Moscou pour fêter les 80 ans de la victoire sur le nazisme.
11 000 soldats ont défilé ce matin, devant la foule russe bien sûr, mais aussi devant une vingtaine de dirigeants étrangers, parmi lesquels des Européens, et ce malgré la politique d'isolement prônée par les Occidentaux depuis le début de la guerre en Ukraine. Donald Tusk, nous l'entendrons, parle d'une présence honteuse de ces dirigeants. Le Premier ministre polonais, qui s'est exprimé de Nancy dans l'Est de la France, où il a signé avec le président Macron un traité rapprochant les deux pays dans de nombreux domaines, la défense entre autres, ce sera le dossier de ce 20h.
Et nous irons également au Vatican pour la première messe du nouveau pape, Léon XIV.
Le nouveau pape qui a déploré le recul de la foi devant, je cite, « d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir et le plaisir ».
Moscou célébrait donc la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie, c'était il y a 80 ans.
Oui, et c'était la quatrième parade militaire du 9 mai depuis l'attaque russe contre l'Ukraine. Et sur les 11 000 soldats qui ont défilé ce matin, 1500 avaient combattu en Ukraine. Étaient présents dans les tribunes, aux côtés du président Poutine, une vingtaine de dirigeants étrangers, dont les présidents brésiliens Lula et chinois Xi Jinping, mais aussi le chef de l'État serbe Aleksandar Vučić, ou encore le président des Serbes de Bosnie Milorad Dodik, et ce malgré la politique d'isolement prônée par les Occidentaux. Le Premier ministre polonais Donald Tusk était, lui, en France, où il a signé un traité franco-polonais avec le président Emmanuel Macron, et il a critiqué les dirigeants venus assister à Moscou aux cérémonies du 9 mai.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la présence au défilé de la victoire à Moscou et les applaudissements adressés au président Poutine, qui dit qu'il continuera à nettoyer l'Ukraine du nazisme, sont une honte. Les présents font semblant de ne pas voir la vérité, parce que cette vérité ne peut être que noire ou blanche. La présence à la parade de la victoire de ceux qui bombardent des villes, des hôpitaux, des écoles maternelles, qui depuis 3 ans ont causé la mort de plus d'un million de personnes ou des blessures graves, cette présence est une honte.
Le Premier ministre polonais Donald Tusk avec Anastasia Becchio.
Anastasia Becchio qui est avec nous, puisque Anastasia, vous avez suivi ce vendredi à Nancy, dans l'Est de la France, ce rapprochement dont on parlait entre la France et la Pologne. Les deux pays ont donc signé un traité, c'était dans la salle du grand salon de l'hôtel de ville de Nancy. Le texte officialise le renforcement de la coopération des deux pays dans de nombreux domaines, cela va, des partenariats économiques au soutien à l'Ukraine, Anastasia.
Oui, le document de 17 pages porte sur des thématiques de sécurité, de défense, d'éducation, d'économie, de politique migratoire ou encore de développement durable. Il doit permettre, selon les mots d'Emmanuel Macron, d'avancer ensemble et aussi de tirer les conséquences de ce nouvel ordre du monde. Jusqu'à présent, la France n'avait conclu des accords similaires qu'avec ses voisins immédiats, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. C'est donc un signal politique très important, un signal envoyé également à la Russie, qui a célébré en grande pompe aujourd'hui les 80 ans de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale sur la place rouge.
Oui, on en parlait. Et puis un volet important est consacré dans ce texte aux questions de sécurité.
Les deux pays s'engagent à se soutenir mutuellement en cas de menace militaire. Cette menace, la Pologne, voisine de l'Ukraine, la ressent encore plus vivement depuis l'invasion russe à grande échelle il y a plus de 3 ans. Ces dernières années, l'armée polonaise est montée en puissance. Elle a déjà la plus importante armée d'Europe en termes d'effectifs, juste devant la France. Le pays a prévu de consacrer cette année près de 5% de son PIB à la défense. La clause de défense mutuelle du traité ouvre aussi la possibilité d'une coopération en matière de dissuasion nucléaire. Le président français a rappelé à cette occasion que les intérêts vitaux de la France intégraient aussi ceux de ses principaux partenaires en Europe.
Comme vous le savez, c'est la plus grande discrétion qui entoure la dissuasion nucléaire. Mais en la matière, nous avons une doctrine. Elle existe d'ailleurs depuis les années 60, de manière verbalisée, avec beaucoup de prudence, parce que son ambiguïté conditionne son efficacité. Et depuis les années 60, avec les propos du général de Gaulle, la dimension européenne de cette dissuasion a été affirmée. Ce qui veut dire que dans la prise de décision de ce que sont les intérêts vitaux, eh bien les intérêts de nos principaux partenaires sont intégrés.
Emmanuel Macron. Alors la Pologne est un pays traditionnellement très atlantiste. Est-ce qu'on doit voir dans la signature de ce traité une évolution ?
La guerre en Ukraine, la menace russe ou le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ont fait bouger les lignes. Mais les deux dirigeants ont insisté sur le fait qu'il n'était pas question de se substituer à l'OTAN. Si le but est d'accroître l'autonomie stratégique, il s'agit aussi de promouvoir une coopération et une complémentarité plus étroite entre l'UE et l'Alliance Atlantique. Près de 10 000 soldats américains stationnent encore aujourd'hui en permanence en Pologne et l'industrie militaire polonaise est fortement dépendante des États-Unis. Mais comme le prévoit le texte signé, Donald Tusk a promis d'introduire progressivement la préférence européenne en matière d'achat militaire.
Merci Anastasia Becchio. J'ajoute que ce vendredi, l'Ukraine et ses soutiens européens ont donné leur feu vert à la création d'un tribunal spécial, tribunal chargé de juger la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Selon Kiev, il pourrait permettre de traduire en justice les principaux responsables de l'attaque, dont Vladimir Poutine. Par ailleurs, pour être complet sur le sujet, l'Union européenne s'est engagée à verser 1 milliard d'euros à l'industrie militaire ukrainienne à partir d'avoirs russes gelés.
RFI Soir, le grand journal. Ce matin, c'était la première messe du pape Léon XIV.
Oui, première messe de Robert Francis Prévost en tant que pape devant les cardinaux réunis dans la chapelle Sixtine. Et dans son homélie, il a déploré le recul de la foi devant, je cite, d'autres certitudes comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Notre envoyé spécial Nicolas Roca a recueilli les attentes des pèlerins pour ce qui est de ce nouveau pontificat.
Dans le décor majestueux de la chapelle Sixtine, Léon XIV est apparu vêtu de blanc. Face aux cardinaux, s'il a effectué son homélie en italien, il a prononcé quelques mots en anglais.
I begin with a word in English and the rest is in Italian.
Ses origines américaines, ce sont une fierté pour Lee Daly. Venue avec son drapeau, elle prend la pose pour les photos place Saint-Pierre.
Vous savez, on se sent fier d'être américain. J'espère que les gens vont accepter ce choix. On sait que les gens en ce moment n'aiment pas forcément les États-Unis, mais on est un super pays. Donc j'espère que le monde va accepter le fait qu'on est un pape américain, mais il est aussi péruvien parce qu'il a la double nationalité. Et c'est vraiment super.
Un profil d'ouverture qui séduit Maximo, fraîchement débarqué de Madrid.
C'est un bon signal sur la voie que peut suivre l'Église, qu'elle soit plus ouverte, plus consciente de la réalité globale et de la conjoncture actuelle qui est très compliquée.
Sujet sensible, cher au pape François, auquel Sergio sera attentif, l'immigration.
Je crois que l'Église a toujours été consciente de la situation migratoire et a été ouverte au fait que chacun peut essayer de chercher un avenir meilleur. Et au final, à un moment donné, nous sommes tous des immigrés.
Dimanche, le nouveau pape adressera un message aux fidèles place Saint-Pierre. Nicolas Roca, Rome, RFI.
La messe d'inauguration du nouveau pontificat aura lieu le dimanche 18 mai, toujours place Saint-Pierre. Avant cela, Léon XIV aura reçu des représentants des médias et du corps diplomatique.
Rendons-nous maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis où Donald Trump change de champion.
Oui, et même de championne, hein, pour ce qui est un des postes les plus importants du système judiciaire, celui de procureur de la ville de Washington, la capitale. Son précédent candidat avait du mal à convaincre. Guillaume Nodin, notre correspondant permanent à Washington, est avec nous pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Alors Guillaume, pour ce poste clé, hein, le président américain propose maintenant une animatrice de télévision.
Oui, procureur du district de Columbia, c'est une charge stratégique dans l'architecture judiciaire américaine. Il peut mener, ou elle peut mener, des poursuites à la fois locales et fédérales, et notamment en matière de sécurité nationale ou de corruption, avec sous ses ordres une équipe de 350 procureurs. Donald Trump a donc choisi Jeanine Pirro, c'est une ancienne juge locale et procureure de l'État de New York, avant de devenir, sous le sobriquet de juge Jeanine, consultante légale pour la chaîne Fox News, la chaîne préférée du président. Elle en est même devenue une chroniqueuse régulière. Elle fait partie de ceux qui, à l'antenne, ont propagé de fausses informations sur le prétendu vol de l'élection de 2020. Informations ou fausses informations qui ont valu à la chaîne de débourser pratiquement 800 millions de dollars pour éviter des poursuites. Elle est aussi une ardente partisane de Donald Trump et elle devient la troisième animatrice de la chaîne à être choisie par lui pour un poste important après le ministre de la Défense, Pete Hegseth, et celui des Transports, Sean Duffy. Le précédent candidat au poste de procureur de Washington, Ed Martin, a dû jeter l'éponge en raison de ses liens avec des émeutiers du 6 janvier 2021, pourtant graciés par Donald Trump, mais certains sénateurs qui était ce jour-là au Capitole, ne souhaitait manifestement pas confirmer ce premier candidat.
Précision signée Guillaume Nodin, merci.
Il est 23h10 à Islamabad et à New Delhi, entre le Pakistan et l'Inde. Les frappes de missiles, les tirs d'artillerie et les attaques de drones continuent.
Ouais, au moins 50 civils ont été tués de part et d'autre de la frontière depuis l'attaque lancée par l'Inde en représailles à l'attentat mené sur son sol. Et New Delhi et Islamabad continuent de s'accuser d'être les responsables de la situation, le Pakistan affirmant ainsi ce vendredi que l'Inde a poussé deux États nucléaires plus près d'un conflit majeur. Deux États que la communauté internationale appelle au calme, mais l'Inde verrait cela d'un mauvais œil, selon Amélie Chalivet. Elle est doctorante à l'Université Paris 2 et spécialiste de l'Inde.
Le Premier ministre Narendra Modi a aujourd'hui une position qui est plus ferme sur le Pakistan, qui a toujours mis en avant cette fermeté, et aussi sur sa position sur le contre-terrorisme, il a toujours mis en avant sa volonté de vraiment lutter contre le terrorisme en Inde. Donc aujourd'hui, je pense que l'Inde considère vraiment cet enjeu-là comme étant bilatéral, et ne souhaite vraiment pas qu'on ait vraiment cette internationalisation du conflit, et ne souhaite pas non plus qu'il y ait une troisième partie qui interviendrait en tant que médiatrice dans le conflit. Et donc, c'est perçu aussi un petit peu comme une hypocrisie de la part de pays qui ont pu avoir affaire à des groupes terroristes et ont pu lutter contre le terrorisme, d'aujourd'hui se voir dire « faites preuve de retenue face à des groupes terroristes ». Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu.
Amélie Chalivet, jointe par Pierre-Olivier. Au Bangladesh, des milliers de jeunes ont manifesté aujourd'hui pour exiger du gouvernement provisoire l'interdiction de la Ligue Awami, le parti de Sheikh Hasina. L'été dernier, c'est la mobilisation des jeunes qui avait précipité la chute de l'ex-première ministre. La manifestation de ce vendredi a été organisée après le départ hier du pays d'un chef de la Ligue Awami, qui fait pourtant l'objet de poursuites. Le rôle de certains membres du gouvernement provisoire est hautement suspect, a estimé un des organisateurs de la manifestation.
Il est très difficile d'imaginer une distribution de l'aide humanitaire à Gaza sans l'UNRWA.
Oui, c'est ce qu'a dit ce vendredi la porte-parole de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Elle réagissait à l'annonce par les États-Unis de la création d'une nouvelle fondation qui serait prochainement chargée de la gestion de cette aide sur le territoire palestinien. Depuis le 2 mars, Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza, où vivent près de 2,5 millions de personnes menacées par la famine. Alors, on n'a pas vraiment de détails sur ce plan que proposent les États-Unis pour le moment, sauf quelques déclarations qui inquiètent les organisations internationales, à commencer par l'ONU, qui redoute d'être écartée. Washington entend en tout cas exclure Israël de la distribution directe de l'aide. Habla Junaidi.
Les contours de cette nouvelle initiative dite humanitaire restent flous. Mike Huckabee, l'ambassadeur américain en Israël, tient en tout cas à préciser une chose ce vendredi, ce n'est pas un plan israélien.
Je tiens à dire que les Israéliens participeront à la nécessaire sécurisation parce qu'il s'agit d'une zone de guerre. Mais ils ne participeront pas à la distribution, ni même à l'acheminement de la nourriture dans la bande de Gaza. Leur rôle se limitera au périmètre nécessaire pour s'assurer que ceux qui apportent la nourriture et ceux qui la distribuent sont en sécurité et hors de danger en pleine zone de guerre.
L'armée israélienne, selon le diplomate, se limitera à sécuriser les points d'entrée. Mais l'objectif israélien d'éviter que l'aide ne parvienne au Hamas, accusé d'en faire commerce, sera respecté, rassure Mike Huckabee. Sans nommer lesquels, l'ambassadeur évoque des groupes de sécurité privée, des organisations humanitaires et des gouvernements disposés à participer à ce plan. Le site d'info américain Axios a révélé jeudi des discussions pour nommer un ancien directeur du programme alimentaire mondial à la tête d'une fondation ad hoc, la Gaza Humanitarian Foundation, chargée d'opérer les distributions. Une perspective dénoncée par l'UNRWA, l'agence onusienne chargée des réfugiés palestiniens, pour qui il est très difficile d'imaginer toute opération humanitaire à Gaza sans ces milliers d'employés présents sur place.
Habla Junaidi, le chancelier Friedrich Merz a eu un échange téléphonique avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, premier contact depuis qu'il dirige l'Allemagne. Il a réaffirmé la relation spéciale entre les deux pays, tout en disant son inquiétude devant la crise humanitaire à Gaza.
Le meurtrier d'Aboubacar Cissé a été remis à la France.
Aboubacar Cissé, c'est ce jeune Malien tué à coups de couteau le 25 avril dans une mosquée. Son meurtrier, un Français de 20 ans, s'était enfui en Italie avant de se rendre dans un commissariat près de Florence. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, il a été remis ce matin aux autorités françaises. C'est ce qu'a indiqué son avocat. En France, où des organisations et des personnalités appellent à une marche ce dimanche à Paris pour dénoncer la progression de l'islamophobie et pour rendre aussi hommage à Aboubacar Cissé.
Revenons sur ce qui se passe aux États-Unis. L'administration Trump cesse d'alimenter la base de données de référence sur les catastrophes climatiques les plus coûteuses.
Oui, nouvelle conséquence des importantes réductions budgétaires de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Et cette décision devrait avoir d'autant plus de répercussions que l'agence souligne une augmentation du nombre de catastrophes liées au réchauffement climatique. Elissar Mokadine.
Cette base de données publique permet aux chercheurs, aux médias et aux citoyens de comptabiliser certains événements climatiques, les feux, les ouragans ou encore les tornades, qui causent plus $1 milliard de dégâts. Mettre un terme à ce recensement aura un impact sur la population américaine, selon Erin Sikorsky, directrice du Centre du climat et de la sécurité.
Ce sera beaucoup plus difficile pour les États et les communautés locales de comprendre le coût des destructions et de se préparer à celles à venir. Si on n'évalue pas les coûts et si on ne les archive pas, on ne pourra pas réparer les dégâts. En supprimant ces informations, en prétendant que les catastrophes n'existent pas, vous mettez les communautés en danger.
Aujourd'hui, les anciennes données sont archivées, mais pour les catastrophes à venir, il sera difficile de constituer un registre alternatif.
Les informations de cette base de données provenaient de multiples sources, y compris de compagnies d'assurance privées. Celles-ci sont disposées à partager des données privées avec le gouvernement américain. Je pense qu'il sera plus difficile de faire pareil.
Depuis 1980, la base de données a recensé 403 catastrophes majeures, avec un coût total de $2 900 milliards.
Elissar Mokadim. En France, Jean-Luc Mélenchon porte plainte pour injure publique après avoir été comparé par le président d'honneur de la LICRA, Alain Jakubowicz, à Joseph Goebbels, l'ancien ministre de la propagande d'Hitler. Des propos tenus hier sur BFM TV qui, dans un communiqué, déplore les propos tenus sur son antenne. C'est la fin de ce journal. Mais RFI Soir continue avec vous, Philippe Le Caplin.
Merci Christophe Paget. On vous retrouve à quelle heure pour de nouvelles informations?
À 22h, heure de Paris.
Rendez-vous est pris, tout de suite les sports. Bakar Diarra, le football, le Paris Saint-Germain décompresse après sa qualification en finale de Ligue des Champions.
Le club a mis au repos plusieurs de ses cadres, parmi lesquels Achraf Hakimi, le latéral marocain, par ailleurs nommé pour le prix Marc-Vivien Fouet, dont le lauréat sera connu lundi. Retour à l'entraînement mercredi pour ses privilégiés. Les autres iront à Montpellier demain pour défier la lanterne rouge à l'occasion de la 33e journée du championnat de France. Sur le banc héraulté, les Parisiens croiseront un visage familier, celui de Zoumana Camara, forcément ravi de la qualification de son ancien club face à Arsenal.
Bien évidemment, j'ai une histoire particulière avec ce club puisque j'y ai passé 16 ans. Au-delà du temps que j'ai passé là-bas, je pense que les gens doivent être derrière Paris parce qu'ils représentent la France, ils représentent le championnat de France. Et quelque part, voir une équipe française performer et arriver à ce niveau-là, ça met en valeur le football français, ça met en valeur notre championnat, tout simplement. Quand on regarde tous les matchs qu'ils ont faits, il y a eu des tournants, des moments chauds, mais à la fin, quand on regarde et on analyse, ils ont à chaque fois mérité leur qualification. Et cette finale, elle est amplement méritée. Donc tout ce que je leur souhaite, c'est aujourd'hui, c'est d'aller au bout.
Les éloges de l'ancien Parisien, désormais coach de Montpellier, Zoumana Camara.
Le football en Allemagne à présent, l'un de ses homologues quitte le Bayer Leverkusen après 3 années sur le banc.
Il s'agit de Xabi Alonso. Forcément, ça va alimenter les rumeurs sur son futur club, probablement le Real Madrid, où il est pressenti pour succéder à Carlo Ancelotti. L'ancien milieu n'a rien laissé filtrer tout cela cet après-midi en annonçant son départ d'un club qui l'a propulsé l'an dernier vers le premier championnat de son histoire à 43 ans, Xabi Alonso ferme le premier chapitre de sa carrière de manager.
Je dois vous annoncer que cette semaine, le club et moi-même avons convenu que ces deux matchs seraient mes deux derniers en tant qu'entraîneur du Bayer Leverkusen. Nous avons parlé cette semaine du fait qu'il s'agit toujours d'une question de dynamique et que c'est le bon moment pour l'annoncer. J'ai parlé ce matin avec les joueurs, avec le staff, avec toutes les personnes qui m'ont aidé au cours de ces 3 années incroyables et fantastiques. Et maintenant, c'est un moment à partager aussi dimanche, surtout avec les supporters dans ce stade. C'est là que j'ai vécu de grandes émotions. Quand je suis devenu ce que je suis aujourd'hui et je dois être reconnaissant envers tout le monde.
Les adieux de Xabi Alonso au public de Leverkusen, ce sera dimanche face au Borussia Dortmund.
Voilà pour le foot. En tennis à présent, il y a eu de la casse chez les Français aujourd'hui. Cela au deuxième tour du Master 1000 de Rome.
Pas pour le numéro 1 français Arthur Fils qui a assuré sa qualification en 2 manches contre le néerlandais Talon Griekspoor. En revanche, son dauphin parmi les tricolores, Hugo Humbert, a été contraint à l'abandon face à Corentin Moutet, un autre français. Ce match était un test pour Humbert, visiblement pas rassurant car il est blessé à la main depuis un mois. Humbert ne se donne pas de grandes ambitions pour Roland-Garros, mais il espère retrouver sa meilleure forme pour le Grand Chelem suivant Wimbledon et la saison sur gazon. Notons aussi l'élimination à Rome d'un autre Français, Alexandre Muller, sorti par le Grec Tsitsipas.
Et puis du cyclisme avec le début du Tour d'Italie.
Oui, et on en parle parce que il se passe en Italie, mais il s'est lancé d'Albanie. Ce premier grand tour de l'année, le premier maillot rose de leader a été conquis à Tirana par le Danois Mats Pedersen au bout d'une première étape de 160 km. C'était la première des trois étapes albanaises du Giro qui verra demain les coureurs parcourir un contre-la-montre autour de Tirana.
Babacar Diarra. Et puis il y a ce qu'il y a à lire dans l'équipe magazine dont vous êtes le rédacteur en chef adjoint Pierre Colvart. À la une Afghane qui avait fait sensation aux derniers Jeux Olympiques pour un sport inhabituel et parce qu'elle avait fait passer un message politique.
Il s'agit de Maniza Talash qui effectivement est une Afghane et alors son sport c'est le break ou breaking et c'est une danseuse afghane. Elle avait pas vraiment marqué la compétition mais elle avait plutôt marqué les esprits parce qu'elle avait enlevé son pull pour révéler une cape qu'elle avait cousue dans une burqa, donc en arborant le message qui est en une du journal.
Free Afghan Woman.
Free Afghan Women, ouais.
Donc les femmes afghanes libres.
Ouais. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas d'autre titre sur la une. C'est son message qu'on a relayé parce qu'il est toujours vivace. Elle, c'est ce qu'elle dit, c'est que ça a marqué l'année dernière pendant les JO, mais évidemment, il faut que selon elle, ça prenne de l'ampleur. Quoi.
Il faut savoir qu'elle ne concourait pas pour l'Afghanistan, mais pour l'équipe des réfugiés.
Absolument.
Hein. Ouais.
Ça, c'était assez hallucinant parce qu'elle avait quitté Kaboul en 2021 à l'arrivée des talibans. C'était déjà une danseuse à Kaboul, danse évidemment discipline parfaitement interdite. Elle s'était retrouvée suite à d'abord un exil au Pakistan, puis en Espagne. Elle s'était retrouvée quand même qualifiée pour les Jeux. Et elle avait, elle le raconte dans l'interview qu'elle nous donne, elle avait fait la cérémonie d'ouverture sur la scène. Vous vous souvenez, chaque délégation était sur un bateau. Et par le jeu de l'ordre alphabétique, son bateau des réfugiés était juste devant le bateau de l'Afghanistan. Et c'est vrai qu'elle raconte qu'elle voyait ses compatriotes sur le bateau de l'Afghanistan avec la gorge un peu serrée, quoi.
Vous racontez que Talash a été disqualifié à cause de son geste politique, mais ovationné par le public. On parle bien des JO, là.
Exactement, parce que c'est interdit, selon l'article 50 des règlements du CIO, de manifester ses opinions politiques. Alors elle se défend en disant « je n'ai pas eu un geste politique ». J'ai eu un geste humaniste et elle annonce qu'elle va effectivement porter l'affaire en justice et pour discrimination parce qu'elle dit que si elle avait été une femme athlète célèbre, elle n'aurait pas subi cette sanction.
En tout cas, elle se veut représentante de toutes les femmes afghanes qui sont bafouées dans leur pays. Hein. La majorité des véritables combattantes pour la liberté de notre pays sont les femmes.
Exactement. C'est ce qu'elle dit, je veux être la voix de la douleur des femmes afghanes, encore aujourd'hui. Elle vit à Paris maintenant, mais elle est très active sur la propagation de son message.
Est-ce qu'elle est réfugiée politique en France, officiellement?
Oui.
Autre chose dans le magazine L'Équipe, tout autre chose, hein, j'allais dire, ça se passe en Italie, à Gênes, un atelier qui récupère les vélos qui ont appartenu à des mafieux. Qu'est-ce qu'ils en font, ces ateliers?
Alors, plus précisément, c'est une loi qui est en vigueur en Italie et qui dispose qu'on peut récupérer les biens de la mafia. Alors, c'est plus exactement des biens immobiliers, exclusivement, et qu'ils sont mis à disposition d'œuvres sociales. Et dans le cadre de cette loi, il y a un écrivain, un bénévole passionné de vélo, qui s'est servi d'un ancien bâtiment qui appartenait à la mafia, qui avait été confisqué à la mafia locale, et pour installer un atelier de réparation et surtout de vente à prix cassé de vélos qu'il rénove.
Et en France, on va pouvoir voir la même chose?
Mais en France, il y a une loi qui va permettre ça, qui est inspirée de la loi italienne. Je crois que c'est assez récent et que les décrets d'application sont pas passés, mais en tout cas, il y a déjà des associations qui œuvrent dans ce sens-là. Oui.
Dans le magazine L'Équipe, deux autres choses assez iconoclastes. Tout d'abord, on va dire une chronique culinaire un peu particulière, puisque vous parlez d'un pot-au-feu qui est cuisiné spécialement au Japon.
Alors, je sais pas, Philippe, combien vous prenez de calories dans un déjeuner. Si vous étiez rikishi, c'est-à-dire combattant de sumo, ce serait à peu près 1200 voire 1800 calories, presque ce qu'il vous faut pour une journée sur un repas. Parce qu'évidemment, c'est des combattants qui, pour la pratique de leur sport, doivent prendre du gras, certes du muscle aussi, et ils ont un plat traditionnel qui s'appelle le chankonabe, qui est une sorte de pot-au-feu du sumo, et qui s'est diffusé dans les restaurants autour du quartier de Ryogoku à Tokyo, qui est vraiment le quartier du sumo, et qui décline ce plat traditionnel en plusieurs versions. Sachant que les rikishi, les combattants de sumo, ne peuvent prendre que ce plat à base d'animaux qui sont bipèdes.
Ça veut dire pas de bœuf et pas de porc.
Pas de bœuf, pas de porc.
Sinon, ça porte malheur.
Oui, parce que c'est des animaux qui sont à quatre pattes, et c'est un mauvais présage pour le combattant qui doit pas finir à quatre pattes, évidemment.
Et puis du fétichisme, si je puis dire. Fétichisme de jambes, puisque c'est le sujet de votre portfolio.
Il s'agit du travail d'un photographe marocain qui s'appelle Hassan Ajaj. C'est à l'occasion d'une exposition qu'il fait à Paris. Alors, il est habitué de travaux beaucoup plus people, d'une magazine assez fameuse. Et là, il avait un travail un peu personnel sur les jambes, effectivement. Donc, il expose sa série de photos très colorées, très vivantes, très amusantes. C'est une série qui s'appelle Legs. C'est exposé à Paris et voilà, c'est lié un peu à son enfance aussi. Il relie ça au fait que au Maroc, dans le quartier, dans son là où il vivait, bah tout se faisait à pied et que voilà, pour vivre, il fallait des bonnes jambes.
Merci Pierre Colbart, et c'est donc à lire dans votre magazine L'Équipe, en vente dès ce soir et tout le week-end.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Demain, ce sera la journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Ainsi, la ville d'Arcueil, en région parisienne, va inaugurer une stèle du souvenir et c'est l'occasion de comprendre comment sont pensés puis érigés ces lieux de mémoire. C'est un reportage de Sylvie Coffi.
Les premières villes à avoir érigé un lieu du souvenir avaient une histoire en lien direct avec l'esclavage, comme les ports de Nantes, Bordeaux ou La Rochelle.
Le critère d'un lieu de mémoire, c'est d'avoir un rapport avec le passé esclavagiste.
Frédéric Régent, historien, nous donne quelques exemples.
Une plaque portant le nom d'un armateur négrier, un musée, un mémorial.
Arcueil, 21 000 habitants, fait partie des communes qui, même sans passé esclavagiste, ont voulu avoir un lieu mémoriel. Le choix de cette ville du Val-de-Marne s'est porté sur une stèle pour célébrer cette journée du 10 mai. L'installation est située entre deux écoles, maternelle et élémentaire. Guillaume Viaud, adjoint au maire.
Le projet, effectivement, c'était de mettre en place une colonne brisée, comme l'esclavage qui a été brisé aussi. On voit que le haut est un petit peu brisé. Et puis l'idée, c'est une stèle voilà, qui permette d'apposer cette plaque, qui est la reconnaissance de l'esclavage. Voilà, donc il y a eu un travail fait notamment par les associations, avec des jeunes, savoir qu'est-ce qu'on veut mettre comme phrase sur cette stèle. Et finalement, ça s'est resserré à ce premier article de la loi de 2001 qui consacre la reconnaissance de l'esclavage par la France comme un crime contre l'humanité. Et on y a posé en plus cette phrase d'Edouard Glissant sur la mémoire. L'oubli offense et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Ça redit bien notre volonté de partager cette mémoire, de l'assumer aussi.
Mais avant d'en arriver là, cela a pris pas mal de temps.
C'est vrai que depuis un peu plus de 10 ans, on faisait tous les ans une commémoration qu'on faisait au monument aux morts de la ville d'Arcueil. Il n'y avait pas de lieu de recueillement spécialement dédié à ça. Et ça nous paraissait important de créer un lieu et quelque chose qui demeure aussi.
Damarisma Marchand, militante pour le droit des femmes et membre du collectif Les Chemins de la Mémoire, a enfin le sourire.
Je suis non seulement honorée et fière par moments, lorsque j'aurai besoin de certaines forces, je viendrai me recueillir ici.
Et en effet, elle n'aura plus à être ballottée d'un site à l'autre.
On a été à des lieux qui plus ou moins ressemblaient là où étaient commémorées d'autres histoires de la France. On suivait et on se disait un jour ça arrivera. Ça arrivera pour qu'on ait un lieu. Mais sinon, c'était souvent des lieux symboliques déjà qui existaient. Et on a toujours été comme ça pour pouvoir commémorer chaque année.
Sur sa plateforme, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage va donc inscrire ce nouveau lieu de commémoration et elle s'attelle déjà à recenser les sites présents à travers le monde liés à l'histoire de l'esclavage.
Voilà un reportage de Sylvie Coffi réalisé à Arcueil, près de Paris. Dans une minute sur Radio France Internationale, ce sera l'actualité en Afrique.
Ce samedi sur RFI,
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
C'est le 29 mai à Abidjan que sera désigné le prochain président de la BAD, la Banque africaine de développement, qui finance de nombreux projets en Afrique. Nous verrons quels sont les enjeux de ce scrutin hautement politique, les forces et les faiblesses des 5 candidats et candidates.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Du 14 au 24 mai, la quinzaine des cinéastes revient au Festival de Cannes pour sa 57e édition. La quinzaine, c'est une sélection de 30 films du monde entier ouverte au public pour fêter le cinéma dans toute sa diversité. Au programme, projection de courts et longs métrages, le choix du public et une carte blanche spéciale comédie avec Alain Chabat en invité spécial. La quinzaine des cinéastes du 14 au 24 mai. Plus d'informations sur quinzaine-cinéastes.fr en partenariat avec RFI.